Plus que jamais, elle se taisait. Et le silence et le regard détournés parlaient mieux que n'auraient fait les paroles. Du jour au lendemain, avec Michel Desbordes, qui publie « La Demande » aux éditions Verdier. Musique, Michel Desbordes, je vous imaginais parmi les livres, plus que parmi les tableaux.
Oui, on peut m'imaginer parmi les livres, comme moi-même je me le suis imaginé depuis fort longtemps. Il me semble que depuis que j'existe, je lis par exemple, quand j'étais petite, ma mère, pour me faire me tenir tranquille, me mettait un livre entre les mains alors même que je ne savais pas lire. J'ai vécu parmi les livres, j'ai grandi parmi les livres. Vous savez, cette phrase de Chateaubriand quand il parle de son père, cette phrase magnifique que j'espère ne pas trop écorcher. Et il vécut inconnu au milieu des livres. Cette phrase m'a longtemps fascinée. Je vis parmi les livres et j'ai fait un métier où l'on vit entouré de livres, puisque je suis bibliothécaire. Quand j'étais petite fille à Orléans, très très tôt, j'ai fréquenté la bibliothèque municipale où le directeur me fascinait.
Oui, parce que quand on parle de bibliothèque d'Orléans, on pense à Georges Bataille.
Et oui, et j'avais 10 ans, 11 ans, bien sûr, j'ignorais qui était Georges Bataille, et pas plus que je ne l'avais lu. Mmh. Et ce personnage me fascinait, si je peux en parler un petit peu. Vous savez, c'était une de ces vieilles bibliothèques qui sentaient bon la cire, les parquets, les bois des tables, les lampes d'opaline. Et je venais là le soir après le lycée, je n'avais qu'à traverser la rue et je voyais cet homme... toujours élégamment habillé dans des costumes très sombres, avec ce regard très clair, qui traversait la grande salle de lecture, qui avait l'air de porter le monde sur ses épaules. C'est le souvenir que j'en ai. Et voilà, je crois que je venais à la bibliothèque pour travailler, mais aussi pour le regarder.
Mmh. Et lui-même, est-ce qu'il regardait les personnes qui étaient
là ? Non, il ne voyait personne. Il ne voyait personne. Il avait le regard fixé sur l'horizon et... Cette salle était très longue, il la traversait d'un bout à l'autre, je ne sais pas moi, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Le regard sur l'horizon. Voilà, et un jour plus tard, une interview dans l'Express, la fameuse interview de Madeleine Chapsal, je me suis dit, tiens, voilà ce monsieur. Voilà, donc je hantais les bibliothèques, comme à leur façon elles me hantaient déjà, et voilà. Alors, vous parliez de tableaux, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui. On vit bien avec les livres ?
Douloureusement. Pour ce qui me concerne, c'est assez douloureux de voir tous ces livres que j'achète parfois en me disant que je prendrai le temps de les lire. Enfin, c'est très banal ce que je dis là, mais vous comprenez. Et puis, qu'on n'a pas le temps de lire, ces murs de bibliothèque qui sont comme des cimetières dont on se dit, mon Dieu, est-ce que j'aurai le temps de lire ça? D'autant que pour moi, c'est peut-être plus compliqué encore parce que j'éprouve le besoin de beaucoup relire. Alors, il est évident que le temps que je relis, c'est ça de moins pour l'actualité littéraire, par exemple, ou pour les domaines extérieurs à la littérature, que je n'ai vraiment plus le temps de bien connaître. Et puis, il ne faut pas croire que quand on est bibliothécaire, on s'occupe des livres. Voilà, donc c'est un rapport douloureux et un rapport fasciné, un rapport d'amour. Je crois que mes plus grandes émotions, en tout cas si je réfléchis chronologiquement, historiquement dans ma vie, mes plus grandes émotions, ce sont mes lectures, mes premières lectures. Je me souviens de... J'avais 13 ans, 13-14 ans, avant de partir au lycée, le moment du petit déjeuner était sacré parce que j'étais seule dans la cuisine. Ma mère m'avait offert un pupitre pour me tenir droite, vous savez. Je lisais Dostoïevski, voilà, des années entières. C'était des exaltations. Donc, je me demande si, étant adulte, on arrive encore à les approcher comme ça.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si exaltant dans les livres?
J'allais dire le possiblement autre, ce qui est comme l'opéra, comme... ces choses différentes qui ne sont pas le monde, qui sont... Vous savez, Borges, il y a une phrase de Borges que j'aime bien. Un livre, qu'est-ce que c'est? Enfin, comme ça, je cite de mémoire. C'est pas le reflet du monde, c'est quelque chose de plus ajouté au monde. Bon, bah, c'est de cet ordre-là, bien sûr. C'est quelque chose qui ressemble à la vie, mais qui est autre chose. Bon, pour parler brièvement.
Est-ce parce que vous avez tant de livres à portée de la main que vous en avez écrit si peu, ou publié si peu, en tout cas, ajouté si peu aux autres livres?
Non, je ne le pense pas. En tout cas, j'ignore que ça... Non, je ne crois pas. Bon, j'ai commencé à écrire tard. J'avais écrit jeune, comme beaucoup. Et puis, je me suis arrêtée. Ma vie a fait que... j'ai épousé un écrivain et ma foi, sans pour autant que je dise la vérité, tout s'est passé comme si j'écrivais par personne interposée. Et peut-être aussi que j'ai épousé un écrivain comme ça pour me dire que je n'avais pas à écrire. Je ne sais pas, on ne va pas aller chercher trop loin.
C'est dangereux d'épouser un écrivain.
Oui, je crois. Oui, je m'occupais beaucoup de ses manuscrits. J'étais sa première lectrice, je tapais à la machine, Et puis, ma foi, bon, peut-être qu'autrement, j'aurais mis autant de temps, je ne sais pas. Il fallait que ça mature, il fallait que... Je ne sais pas si j'aurais pu écrire à 20 ou 30 ans les textes que j'écris aujourd'hui, par exemple. Je ne pense pas. Voilà, donc j'ai commencé tard et...
Ou plutôt, vous vous êtes interrompu.
Oui, peut-être que j'y croyais pas beaucoup, peut-être que je n'avais pas confiance en moi, je ne sais pas. Et puis un beau jour, eh ben ça m'est tombé dessus, j'ai pas eu à décider ou à lambiner. C'était la poésie à ce moment-là qui est apparue.
Il y a une phrase de vous que j'ai lue dans un journal de votre région d'Orléans. Pendant que je n'écrivais pas, j'écrivais.
Et oui, il me semble que finalement, il s'est passé quelque chose comme ça. Mes premières... comment dirais-je? Ce qui a accompagné mes premiers vrais pas dans l'écriture, c'était l'angoisse. L'angoisse de me dire que j'avais du temps à rattraper. Et alors, c'est vrai, c'était presque paralysant jusqu'au jour, mais j'ai mis du temps à comprendre ça, jusqu'au jour où je me suis dit que, oui, tout le temps que j'avais passé à ne pas écrire encore, j'écrivais déjà. C'était pas du temps perdu, j'écrivais à ma façon, dans ma tête. Il y a mes angoisses qui se définissaient, mes obsessions qui se définissaient. finalement, si je réfléchis bien, à voir ce que j'écris, je suis un petit peu préoccupée par la mort, par exemple. Je pense que le temps n'était pas venu pour que je parle de ces choses-là, de cette chose-là. Voilà, donc on peut dire ça, effectivement, pendant que je n'écrivais pas, j'écrivais ça.
Vous avez commencé par des poèmes. Il y a un livre qui a été publié en 86 aux éditions Arcane 17, « Sombre dans la ville où elle se taise », c'est le titre, « Sombre au pluriel ». Et ensuite, ça a été le silence pendant 10 ans.
Oui, non. Oui et non. Oui, bien sûr, le livre qui a suivi est paru 10 ans après. Enfin, le livre qui a suivi, c'est plus compliqué que ça. Voilà, voilà l'histoire. Elle est très simple et on peut comprendre. J'ai donc commencé par ces textes de poésie.
Parce que c'est plus facile, la poésie.
Oui, pour moi, c'était la démarche la plus immédiate, Et puis, j'ai très rapidement voulu passer à la fiction. J'ai écrit un texte de fiction et j'avais beaucoup de mal à me sortir de ma posture de personne qui écrivait de la poésie. Je veux dire par là que j'ai eu du mal à ce que mon écriture permette l'accès du lecteur. Je n'avais pas encore engagé le dialogue avec le lecteur. Si je fais une comparaison un petit peu audacieuse, mais pour essayer de me faire comprendre, c'était en tout cas ce que je pensais. Pour moi, la poésie, enfin celle que j'écrivais, était une démarche plutôt autistique, si je puis dire, toute proportion gardée, bien évidemment. J'étais seule avec ce que j'écrivais, alors que la fiction, eh bien, il faut le dialogue, il faut que le lecteur puisse comprendre, etc. Donc j'ai eu du mal, quand je me suis attaquée au roman, à la structure romanesque, j'ai eu beaucoup de mal, et ce qui fait que je m'y suis repris à deux fois. Et que je ne consacrais pas alors le temps qu'il fallait à l'écriture. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Donc après ce premier livre de poèmes, « Sombre dans la ville où elle se taise », vous avez publié chez Verdier en 86 un premier roman intitulé « L'habitué » au féminin. Et un roman où vous dites, pour l'avoir écrit, avoir endossé la panoplie romanesque, expression assez étrange. Pour raconter les destins tels qu'ils se dessinent avant que la mort ne les fige.
Oui, ça, c'est pas vraiment ma phrase. C'est ma phrase telle qu'elle a été retranscrite par quelqu'un qui écrivait l'article. Non. J'ai voulu véritablement, dans ce grand effort que je faisais vers la fiction, j'ai voulu le romanesque. J'ai voulu jouer le plein jeu du romanesque et. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu mimer la démarche romanesque en racontant une histoire qui n'existait pas, en racontant une absence d'histoire, l'habitué, dans le fond. Il n'y a pas d'histoire, c'est justement un livre sur l'absence d'histoire dans certaines vies. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu utiliser les outils romanesques, les atmosphères romanesques, un milieu romanesque pour parler du contraire de ce dont parle le romanesque. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire à ce moment-là. J'ai voulu le romanesque pour quelque chose qu'il n'était pas.
Vous avez voulu raconter une vie minuscule.
Bon, on peut faire des comparaisons. C'est pas interdit. C'est vrai que ces vies dont je parle, ce sont des vies tragiquement ordinaires. Et je suis convaincue que le banal, l'ordinaire, quand il est profondément consenti, quand il est profondément accepté, il devient le tragique. C'est ça ma matière, c'est ça qui m'intéresse de faire. C'était ça l'habitué, et puis c'est ça aussi la demande. Et puis le prochain, je pense que ça sera quelque chose comme ça aussi. Le tragique ordinaire, c'est ça qui m'intéresse. Alors, les vies minuscules, oui. Surtout dans la demande. Dans l'habitué, ce sont des vies qui auraient pu ne pas être minuscules. Ce sont des vies où le rêve a pris tellement de place. Ce sont des vies où ces trois femmes, ces trois sœurs ont attendu la vie, bien beau jour, elles se sont rendues compte, à force d'attendre, que la vie, elle était derrière. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est minuscule ou pas minuscule, mais c'est des vies où il ne se passe rien. Je suis hantée, j'ai envie de travailler sur l'inaccompli, sur l'inaccompli. Tous ces gens qui passent comme ça à côté.
Il y a ces gens qui passent à côté, Michel Desbordes. Il y a la mort dont vous parliez tout à l'heure, la mort qui s'impatiente toujours. Et puis il y a le silence qui était déjà porté par le titre du livre de poèmes dont nous parlions, Sombre dans la ville où elle se taise. Et le silence est encore très présent dans le nouveau livre, La Demande.
Ben oui. Comment dire ça? Le silence, je sais bien ce que c'est. Il me semble que je sais de quoi je parle quand je parle du silence. Bon, j'étais une petite fille. Si je peux oser une petite confidence, là, j'étais une petite fille fort bavarde. Et puis, apparemment, mon bavardage devait peut-être déranger. Alors, un jour, je me suis un petit peu tue. Jusqu'au point d'avoir des problèmes avec la parole. Enfin, j'étais pas une enfantiste, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'était pas évident, du tout. J'ai eu à travailler la parole, si je puis dire, et je suis d'une famille, j'ai grandi dans une famille où on se taisait. Ma grand-mère se taisait, ma mère se taisait et se tait encore. On n'avait pas besoin de parler pour faire comprendre les choses. C'est vrai. Voilà, alors mes personnages ne sont pas très bavards. Je pense qu'ils font comprendre ce qu'ils ont à faire comprendre, mais ils ne sont pas bavards. Je me vois difficilement aujourd'hui faire un livre où il y a des dialogues. Enfin, des dialogues normaux, quoi. Un tiré, il dit ceci. Non. Ça, j'aurais du mal. Et puis, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'invisible. Enfin, c'est un grand mot, ça. C'est la face cachée des choses. C'est un texte sur le regard, dans le fond, comme l'habitué. Ça m'intéresse, ça. Mes textes partent d'une image. J'ai une image dans la tête. Là, en l'occurrence, c'était cette vieille femme, enfin, qui n'est pas si vieille que ça, d'ailleurs. Enfin, une femme usée par la vie, qui s'assied comme ça, extrêmement silencieuse, extrêmement triste, en croisant les mains sur ses genoux. Et son visage immobile traduit 10 000 choses. Voilà.
Donc, vous avez vu cette femme ?
Oh, j'en ai vu des comme ça, oui, je connais bien, oui, j'en ai vu des comme ça. Vous aussi, je suis sûre. Les lecteurs m'écrivent, ils me disent qu'ils la reconnaissent. Vieille paysanne, revenue déçue par la vie, malheureuse, transmettant le malheur de mère en fille, comme ça, oui. Tout un héritage féminin, là. Qu'est-ce que je disais ? Oui, alors, donc, le regard, je vois les gens, c'est des images que j'ai comme ça, et je m'approche d'eux, comme avec une caméra. Et c'est pas les faire parler qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre. Puis parfois, comme dans l'habitué, plus je m'approche, plus le mystère demeure, c'est curieux, comme dans un film un peu. L'habitué, les images l'image qui a fondé le texte, là, c'était, je voyais trois femmes comme ça marcher, je voyais des silhouettes, un petit peu comme dans les films de Bergman, vous savez, crier chuchotement, ou dans les tableaux de cet Allemand si romantique, je ne sais jamais si c'est Gaspard David ou David Gaspard Friedrich, vous savez, ces sœurs qu'on voit. C'est un peu ça qui a contribué à faire démarrer le livre. Voilà, alors le silence, le regard. Oui, mais encore une fois, le silence parle et le silence traduit les choses d'une façon accablante parfois. Très lourde, très... très forte. Il s'exprime redoutablement, je veux dire, il exprime redoutablement le silence.
C'est le silence qui parle dans vos livres ?
Je sais pas, on peut dire ça. Je sais pas si c'est le... Oui, on peut dire ça, sans que je puisse en dire bien davantage.
L'histoire se déroule au XVIe siècle, c'est-à-dire tout le temps ?
Eh oui, on peut dire ça. Je l'ai situé dans le XVIe sans vraiment savoir pourquoi. Je vais revenir là-dessus. Mais tout le temps, oui, c'est une histoire que j'ai située au XVIe, mais qui pourrait être aujourd'hui ou il y a 1000 ans.
Le XVIe, c'est pas n'importe quel siècle.
Alors, le XVIe, c'est pas n'importe quel siècle. Donc, je reviens là sur ce que je voulais vous dire. Bon, c'est un siècle qui m'a toujours attirée. Historiquement, qui m'a toujours attirée. Et puis quand, par exemple, il y a 3-4 ans, je lisais des textes littéraires du XVIe, j'étais fascinée par cette langue française sortant du Moyen-Âge et en train de se faire. Bon, ceci étant, c'est tout simplement le hasard d'une promenade à Chambord, à l'intérieur du château de Chambord, une visite du château, que ce sujet m'est apparu, qui s'est imposé à moi, sans que j'aie eu bien à dire quoi que ce soit. Voilà très rapidement ce que je peux dire. D'un seul coup, donc, j'ai pensé à ce peintre-là, Léonard de Vinci, pour ne pas le nommer.
Parce que vous ne le nommez pas.
Oui, non, mais ce n'est pas un livre sur Léonard de Vinci. Je me suis inspirée, c'est évident, je me suis inspirée de Léonard de Vinci, voici pourquoi. D'un seul coup, je me suis interrogée comme ça, étant troublée par les thèmes d'exil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce vieil homme, à la fin de sa vie, qui a tous les honneurs, toutes les gloires, qui vient mourir en France, car c'était ça. Et donc, je me suis interrogée là-dessus, et ça a démarré un petit peu comme ça, et il se trouve que c'était effectivement le début du XVIe, et voilà. Ça m'a permis aussi un certain dépouillement. Pour moi, ça allait de pair avec le dépouillement. C'est une époque très contrastée qui m'intéressait par ses contrastes, sans que tout ceci ait été réfléchi. C'est après que j'ai compris ça.
Contraste aussi entre les deux personnages.
Contraste entre les deux personnages et contraste entre les différents aspects du XVIe, de cette Renaissance, à la fois merveilleusement, presque baroque déjà, oui, merveilleusement chatoyante, riche, et puis cette misère, cette dureté de la vie. Donc ça m'intéressait, et c'est vrai qu'on retrouve ce contraste dans ce face-à-face entre ces deux personnages.
Le vieux maître italien et la servante solognotte.
Mais la servante de la Sologne, toute proche, c'est-à-dire le plus rude, le plus près des choses, le plus près de la vie, le plus près de la mort, et cet homme, ce génie, reconnu, 1000 fois reconnu, revenu de tout, dont les grandes œuvres se défaisaient, s'abîmaient, il faisait des inventions, il croyait faire des inventions extraordinaires avec ses mixtures, c'était parfois catastrophique. Et donc ce génie qui s'en allait, qui s'en allait des murs, et finalement, ils sont face à face, et où est la différence ? Bon, c'est un peu quelque chose comme ça. Il la regarde en peintre d'abord, il la regarde en peintre.
C'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est regardé ?
C'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est regardé, ce regard l'a fait un peu exister. Elle l'a fait un peu exister. Et puis, un jour, enfin, avec le temps, il y a, je ne sais pas, c'est 1 an, 2 ans, ça. Il s'aperçoit que finalement, il ne peut pas se passer de la regarder parce qu'elle a en elle une. Sous sa dureté et son air réprobateur, il y a en elle une solidité, une sérénité que peut-être il envie. Et au fond. Au fond, elle lui apprend la vie, elle lui apprend la mort. Il la regarde faire. Oui, elle lui apprend la mort. C'est comme les femmes. Je veux dire, les femmes sont... Il me semble que dans la tradition, dans la grande tradition, dans notre inconscient à tous, c'est la femme qui est la plus près de la vie, la plus près de la mort. Bon... Elle fait les enfants, mais elle aide aussi les autres à faire les enfants. Elle fait grandir les enfants, elle les nourrit, elle les soigne, elle s'occupe des morts. Voilà. Ça m'a plu de parler de ça.
pourrait dire de la demande de Michel Desbordes, le livre que vous venez de publier chez Verdier, que c'est moins une peinture qu'un dessin, hein, puisqu'on parle de peinture depuis le début de cette émission. C'est pas un roman à costume, par exemple. C'est au contraire une tentative de saisir, comme ça, de capter l'essence des choses.
Oui, je...
Les choses et des êtres.
Oui. Peut-être qu'en parlant de dessin par rapport à la peinture, vous voulez dire que j'ai une démarche de dépouillement, c'est ça que vous voulez dire? Oui.
Je dis pas dépouillement parce que ça fait un peu boucherie.
Ah bon? Et pourtant, c'est... Pourtant, ça a été un petit peu mon souci. Alors, oublions la boucherie, mais je veux dire que j'ai... essayer de ne garder que l'essentiel. Quand j'écris, la phrase me vient... Bon, déjà pour l'écriture, enfin la phrase. La phrase me vient facilement. Donc le travail que je fais pour la phrase, c'est un travail de... Alors, il ne faut pas dire dépouillement. Alors, de retrait, je retranche, je retire, je gomme, j'enlève des mots, je garde l'essentiel. Et c'est vrai que ce travail de... Cette tentative de ne... Ah, ça m'embête, de dépouillement, allez.
Oui, non,
allons-y, parce que je ne sais pas comment dire autrement. Je veux dire, accompagne ce sujet que je traite. Comment le traiter autrement, ce sujet, cette approche de la mort, cette face cachée des choses? Comment le dire autrement que de cette façon extrêmement simple? Donc oui, le dessin peut-être, et cependant, je ne peux pas cacher... Et mes lecteurs le disent quand ils m'écrivent. Je ne peux pas cacher que tout le temps que j'ai écrit ce livre, j'ai eu des toiles devant les yeux et dans ma tête. Sur mon bureau, j'avais des représentations des flamands, évidemment, ces peintres de l'instant. J'avais par exemple ce livre de Todorov, L'éloge du quotidien. Il me semblait qu'il y avait un dialogue avec ces gens-là. Je dialoguais avec eux. C'est fascinant, ces toiles. Alors que l'Italie de la Renaissance, du Quattrocento, était en pleine expression religieuse, avec quand même quelques portraits de nus déjà, les femmes des ducs, etc., ou les maîtresses plutôt. Les Flamands, eux, travaillaient dans les cuisines. Ils peignaient des servantes, des femmes qui s'épouillaient, qui se lavaient les pieds, des femmes qui lisaient leurs lettres d'amour. L'instant. La lumière de l'instant. Donc, je sentais que c'était ce que j'avais envie de faire aussi. Donc, la peinture, elle est là de cette façon-là. Et je comprends votre image du dessin, je comprends.
Quand vous dites sur mon bureau, vous voulez dire votre bureau de la bibliothèque?
Qu'allez-vous dire?
N'écrivez pas vos livres dans votre bureau?
Dans mon bureau, chez moi, oui. J'aurais bien du mal dans cette bibliothèque que je dirige. C'est pas... J'ai quelques amis écrivains qui disent qu'il n'est pas supportable d'avoir un autre métier quand on écrit. Moi, c'est pas ça. Ça me dérange pas d'avoir un métier. Je trouve ça plutôt intéressant. Mais d'avoir un poste à responsabilité, ça peut être dangereux. Et en tout cas, en tout état de cause, ça ne laisse pas le temps, malheureusement.
Alors, vous écrivez le dimanche?
Non, pensez donc, j'écris tous les jours, chez moi, en rentrant.
Jusque tard dans la nuit?
Non, parce que je me lève à 5h30, alors si j'écrivais tard dans la nuit, je ne sais pas si je tiendrais le coup. Je travaille de 6h à 9h.
3h par jour?
3h par jour, et puis le matin, je relis ce que j'ai fait la veille, à tête reposée. Le soir, c'est plutôt l'écriture de l'inspiration, puis le matin, l'écriture de la critique. Je vois tous les défauts, je vois... Enfin, je ne travaille pas en faisant une page, par exemple. Je n'ajoute pas une page à une page. Je travaille d'une façon que je trouve un peu étrange, c'est-à-dire que ça me fait penser au mythe de Didon. Vous savez, Didon, cette reine-là de Tyr, ou de je ne sais où, qui a été exilée en Afrique du Nord, alors on lui a donné un royaume pour la... en compensation de son exil, c'est le roi de Phénicie, je ne sais plus, bref. On lui a donné un royaume qui était de la taille d'une peau de bête. Et de ce royaume qui était de la taille, je vous expliquais pourquoi je dis ça, bien sûr, et de ce royaume qui était de la taille d'une peau de bête, elle a fait un grand, grand royaume, Carthage, etc. Et comment a-t-elle fait? Elle a pris sa peau de bête et elle l'a coupée en petites lanières, en mille et mille lanières, et elle l'a étendue comme ça. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ainsi que je travaille. C'est-à-dire que je ne fais pas une page, et puis le lendemain une autre, puis ça fait un livre. J'ai une idée qui me vient, j'ai une image, une idée qui me vient. J'écris d'affilée 4, 5, 6 pages, comme ça, disons des pages d'inspiration. Et ensuite, je coupe là-dedans et ça fait un livre. Je rajoute une phrase ici, je rajoute un morceau de paragraphe là. C'est comme ça que je travaille. Curieux.
Là, votre livre, La Demande, a une structure tout à fait particulière.
C'est-à-dire ?
Il y a plusieurs séquences. Un prologue d'abord, qui porte un autre titre, Le Dernier Pays, qui est précédé lui-même d'un court texte qui nous donne le nom de la servante Tassine. Et puis enfin, et c'est à la page 23 d'un livre qui en comporte 120 à peu près, le texte proprement dit intitulé La Demande.
Ça vous a paru être une structure un peu particulière alors ça ?
Ben ça, en tout cas, ça éveille la curiosité du lecteur.
Eh bien, ça n'a pas du tout été réfléchi. J'ai d'abord fait ce petit prologue, disons, cette petite annonce. Ensuite, j'ai fait ce premier chapitre. En fait, il y a deux chapitres. Hein. Il y a le premier chapitre qui raconte le voyage, l'exil.
Mais tout ça est composé avec des caractères différents. Hein.
Ça, oui, on l'a mis en italique, je crois.
Le prologue, mais oui. Le petit texte liminaire.
Oui, ça s'est imposé à moi. Je serais incapable de vous en donner une analyse. Ça n'a pas été réfléchi. Il m'apparaissait important dans ce premier chapitre, Le Dernier Pays. J'avais besoin de ce premier chapitre pour planter un petit peu le décor, comme on dit, et ensuite, et dire des choses sur lesquelles je n'aurai plus à revenir ensuite quand je serai engagée dans mon récit, voyez ? Voilà. Donc tout ceci ne répondant pas à une théorie ou à une réflexion préalable, pas du tout, ça s'est fait tout seul, ça.
Les personnages eux-mêmes ne sont pas désignés par des noms, mais par des pronoms. Hein. Ce qui fait que tout le livre est écrit à la troisième personne, c'est de temps en temps il, l'artiste, elle, la servante, ou il au pluriel, les élèves du maître.
Ouais. Je suis toujours un petit peu embêtée quand on me parle de ça, parce que là encore, ça ne répond pas, ce n'est pas véritablement délibéré, c'est ainsi que j'ai fait, car je crois... Je ne pouvais pas faire autrement. C'est vrai que je n'éprouve pas le besoin de nommer. Je n'ai pas éprouvé le besoin, par exemple, de donner un nom à ce peintre. Il est le seul « il » du livre, pratiquement. Et les autres « il », en tout cas, ont chacun leur nom. Ce sont les élèves ou le serviteur italien. Et puis elle, je l'avais désignée, je l'avais dénommée dans ce petit exergue. Il n'était vraiment pas besoin que je dise « Tassine fit ceci, Tassine fit cela ». Je ne pouvais pas d'ailleurs, je ne pouvais pas. Alors allez donc savoir pourquoi. Il ne faut pas trop analyser, vous savez, il ne faut pas trop chercher. Même moi qui écris, il y a des choses que je comprends après les avoir écrites, mais je ne cherche pas à trop savoir avant. Je me méfie un peu de l'analyse, bien que j'ai souvent comparé l'écriture à la démarche analytique, enfin la démarche psychanalytique. Je veux dire, toute proportion gardée. Cette connaissance que vous apporte un mot mis après un autre, et vous voyez ce que je veux dire ? On apprend des choses qu'on ignorait, par exemple. Je m'arrête là.
Vous parliez du regard, tout à l'heure, qui est au centre de la demande. Le regard, bon, on pense aussitôt au regard de l'artiste, puisque l'artiste, il est là pour ça, pour regarder, et c'est même pour jeter un regard qu'on l'a fait venir d'Italie. Mais curieusement, dans cette histoire, c'est la servante qui a le premier regard, comme on a le premier mot, et qui aura peut-être le dernier.
Oui. Curieusement, ou pas si curieusement que ça, il est revenu un petit peu de tout. Il a, comme je disais tout à l'heure, il se pose sans doute des questions sur l'éternité de son œuvre. Voilà, ces grandes fresques sur les murs des chapelles qui se délitent. Je crois qu'il est censé, effectivement, porter un regard sur son œuvre et se questionner sur elle, à part ces trois tableaux qu'il a fait venir avec lui. Ça, j'ai repris un détail de la vie de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qui va rester de lui, donc, au fond ? Qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Elle le surprend une nuit en train de... Je dévie un petit peu de... de la réponse, mais je vais y revenir. Elle le surprend une nuit en train de coller les ailes d'une mouche. Autre détail de la vie de Léonard. Et elle, la simple paysanne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que l'éternité? Voilà. C'était quoi la question déjà?
La question, c'était le premier et le dernier regard.
Voilà, oui, alors elle a, oui, on peut dire ça, le premier regard, premier, bon, il y a des réminiscences de la présence maternelle. Hein. Elle, c'était vraiment le premier regard, on peut dire, mais bon, c'est la femme, la protectrice, donc, et le dernier regard, oui, le dernier regard. Mais j'ai évité de faire, effectivement, bon, c'était tentant de faire un texte sur ce peintre regardé par sa servante. Ça m'intéressait pas. C'était lui, le grand, qui regardait la petite. Voilà. Donc le premier et le dernier regard, oui, on peut dire ça. Vous avez raison.
Qu'est-ce qui le fascine, lui, quand il la regarde?
Si on réfléchit, enfin, si j'y pense un petit peu, c'est cette vaillance, cette façon qu'elle a de dominer les choses, de dominer le malheur, d'être revenue de tout, de n'avoir jamais connu le bonheur. C'est peut-être cette résignation, cette façon qu'ont certaines femmes revenues de tout, justement, non seulement de survivre, mais de vivre, cette simplicité, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà.
Et le titre alors, la demande?
Ah.
C'est l'expression d'un manque.
C'est tout simplement, vous savez bien, la demande qu'elle lui fait. Un soir, enfin une nuit, je ne vais pas trop en dire, mais enfin disons qu'elle le regarde travailler, elle les regarde tous ensemble, elle rôde autour de ses dessins, elle voit des choses qu'elle n'a jamais vues, c'est-à-dire des corps nus. Des corps nus, elle a dû en voir. En bonne servante qu'elle est, les enfants, les morts, etc. Elle voit des corps dépouillés, excusez-moi, je reviens. Tiens, je reviens au dépouillement. Bon, je veux parler de ce qu'on appelait les anatomies. À l'époque, Léonard, pour ne citer que lui, parce que je crois que Michel-Ange aussi en a fait. Michel-Ange est aussi présent dans son texte, hein, attention. Léonard a bravé a transgressé en passant des nuits dans les caves des couvents et des hôpitaux italiens pour lui-même ouvrir les morts, les dessiner dans un but scientifique, bien entendu. Donc elle voit ses dessins, ses corps ouverts, elle voit ces choses qu'elle n'a jamais vraiment vues dans la vie et que se passe-t-il? Eh bien, d'abord le temps passe, elle réfléchit à quelque chose, on ne sait pas à quoi, je pense que ça la trouble d'une certaine façon. Bref, un jour, elle lui fait cette demande qui a rapport avec ses dessins qu'elle a vus. Ces corps nus qu'elle a vus, étudiés, dépouillés, dessinés. Et elle lui propose, comment dire cela, elle lui propose de lui servir après sa mort, après tout c'est une servante. Et voilà, elle formule sa demande, qui est l'avant-dernier chapitre, je crois, du livre, qui est un chapitre que j'ai écrit presque tout d'une traite. Alors que l'idée de la demande, cette demande donc, je l'ai eue aux trois quarts du récit. Quand j'ai commencé ce livre, je n'avais pas pensé à ça. J'aurais jamais osé faire un livre. Ayant eu cette idée, j'aurais jamais eu le courage.
La demande de Michel Desbordes est publiée chez Verdier. Du jour au lendemain, Christian Keller, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir. Thank you.
émission a été diffusée pour la première fois le 30 mars 1999.